Charles Lane. Hey! Bonsoir mes petites courges mal poussées du sein Pakistan Sud, des magnifiques prairies ensoleillées de la vie. Comment allez-vous? C'est l'iPoke Podcast. Puis je suis tout seul. Personne m'aime, genre. Personne m'aime, moi, dans la vie. Personne veut chiller avec moi, man. Puis je me retrouve donc tout seul pour faire un épisode solo du iPoke Podcast aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas d'amis. Mais j'ai vous autres. Puis je sais que vous allez être actifs dans les commentaires. Je sais que vous allez être chill avec moi. Puis, on va parler de tout ce qu'on a à parler. Parce que, sacrement, on a un paquet d'affaires à parler, guys. Littéralement, un paquet de choses à parler. On a eu une énorme semaine dans le monde du sport de combat, dans le monde des arts martiaux mix en général. Et puis, écoute, fallait que je prenne le temps de venir ici puis vous parler de ça quand même. Parce que c'est très important, tout ce qui est arrivé cette semaine. Puis, honnêtement, je sais que les gars ont eu des très, très belles performances hier. Mais on n'aurait pas le choix de commencer le podcast, malheureusement, sans parler du décès de Jeannette Zacharias-Zapata, la boxeuse, qui malheureusement affrontait Marie-Pierre Roule la fin de semaine dernière dans un combat de boxe. Puis, malheureusement, elle a mangé trop de coups. Elle s'est écroulée devant l'arbitre en convulsion. Elle a été envoyée à l'hôpital aux soins intensifs où, quelques jours plus tard, malheureusement, elle est décédée, OK? Puis vraiment, ça, c'est une nouvelle qui m'a rentré dedans en esti, là, je vous le cacherai pas, les boys, man. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré, man. j'ai trouvé ça vraiment triste. Elle avait 18 ans, gros. Ça n'a pas aucun calice de bon sens, man, ce qui est arrivé. Puis je pense que c'est important de venir ici et d'en parler aujourd'hui, de dire les affaires que j'ai à dire là-dessus. Puis j'espère que je ne vais pas froisser personne là, dans mes paroles ni rien, bien que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire des fois. Mais, man, si ça, cet événement-là, n'amène pas un changement dans la boxe, je ne sais pas ce qu'il va le faire. Parce que ça fait des années qu'on se dit qu'il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Il y a quelque chose comme ça qui va finir par arriver si la boxe continue d'être pratiquée comme elle est pratiquée. Puis sacrament de calice, ça vient de nous arriver. Puis non seulement, ça nous est arrivé ici, genre. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Puis on s'entend que toute la semaine, on a parlé, on a entendu parler de beaucoup de gens, beaucoup de plus en plus de gens que jamais arriver puis donner leur opinion sur la boxe. Puis je le sais que ça vient faire chier un peu des gens qui sont dans le sport puis tout, mais c'est comme, je pense que ces gens-là qui voient cet événement-là qui est arrivé, qui sont extérieurs au sport de la boxe, qui ne comprennent pas comment ça marche vraiment, ils ont le droit d'émettre leur opinion par rapport à ça. Puis c'est peut-être pas nécessairement la bonne opinion, ils disent pas nécessairement les bonnes choses. Tu sais, on a vu des gens dire tout simplement faut bannir les coups à la tête là, à la boxe, tout simplement. Je pense pas que c'est ça le problème, honnêtement. Oui, c'est problématique de se frapper à la tête, là, ça on le sait, mais c'est comme les gens qui rentrent dans le ring, les gens qui s'entraînent là-dedans, le savent eux autres aussi que c'est un risque qu'ils prennent de se farger direct dans la tête. Puis que malheureusement, quand tu fais ça, tu peux en mourir. Donc les gens rentrent dans le ring ou dans la cage, dans le cas des arts martiaux mix, avec cette pensée-là en tête, en prenant ce risque-là, c'est un risque conscient qu'ils prennent. Donc non, je pense pas qu'il faut abolir les coups à la tête. Je pense pas qu'il faut faire ces choses-là. Qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis, qui sont extérieurs au sport de la boxe qui disent « Mais Big, c'est vraiment le temps de changer la façon dont les combats de sport sont bookés, particulièrement à la boxe, man. » Ça a vraiment, ça a aucun calice de bon sens. Genre, en MMA, puis là, je vais faire beaucoup de devoirs de comparaison, vous allez voir, entre le MMA puis la boxe, mais je pense que c'est vraiment ces aspects-là qui font que le MMA puis la boxe, c'est différent, puis qu'on voit pas de gens mourir, basically, en MMA. C'est déjà arrivé, mais je vous dirais que généralement, les gens qui sont morts, c'était avant le combat, puis c'était ça à weight cut. On n'a pas vu de gens vraiment mourir dans la cage des suites d'un combat d'MMA. La première raison pour ça, je suis vraiment convaincu que c'est les gants. parce que il n'y a pas vraiment personne qui va me réussir à me convaincre avec succès. Désolé, que les gants de boxe ne sont pas plus dangereux que les combats d'MMA à cause de la grosseur. Parce que, tu sais, je ne suis pas un docteur, là, j'arrive pas ici avec mes grosses analyses médicales, mais bref, je pense que c'est juste du gros bon sens de se dire qu'est-ce qui est pire pour toi dans la vie? Est-ce que c'est de manger un gros coup de poing ou un gros coup de pied, là, un coup de tibia, un petit flush dans la face, puis tu te fais complètement knocker. Là. T'es knocké, knock-out red, tout éteint, les yeux vides dans la tête, t'es tout croche en terre, tu joues de la trompette, parce que t'as encore ta garde haute. Est-ce que ça, c'est pire? Ou est-ce que c'est pire que de manger 384 coups de poing dans la gueule sans jamais tomber? Puis il n'y a personne qui va me faire croire que c'est pas pire de manger 384 coups de poing dans la gueule sans tomber. Les gants sont tellement gros à la boxe que ça knock pas. Puis le fait que ça knock pas, c'est que les gens, quand ils se font sonner debout, on s'entend à chaque fois que tu te fais sonner debout, il y a des très bonnes chances là, que ton cerveau aille toucher à ta boîte crânienne puis que ça crée une commotion cérébrale. Peu importe la gravité de cette commotion cérébrale-là. Donc, quand tu manges un coup, tu te fais knocker, t'as une bonne commotion cérébrale, esti. Mais il n'y a pas, à part des fois, tu sais, il y a un ou deux coups au sol qui se donnent, puis là, l'arbitre arrête ça, il n'y a pas vraiment de follow-up. Tu as mangé un gros coup, ça l'a éteindu, c'est pas bon pour ton cerveau, mais c'est fini là. À la boxe, des fois, tu peux te faire sonner dès le premier round du combat, et puis tu te retrouves basically un peu commotionné, à continuer à te battre, à continuer à manger des coups. Puis pas mal tous les exemples de combats de boxe qu'on a vus où quelqu'un est tombé après le combat de boxe, il est retrouvé dans le coma, il est mort, comme malheureusement Jeannette est arrivée, ou comme Adonis a eu, il est pas mort, mais tu sais, il y a des séquelles graves. On s'entend que si vous avez réentendu Adonis parler depuis, c'est malheureusement plus le même homme qu'avant. Puis ça, c'est toujours à la suite de des beatings prolongés qui dure pendant longtemps, que la personne tombe juste pas, mange du dommage. À un moment donné, le corps est juste plus capable puis s'effondre parce que le cerveau a pas shut down à temps. Fait que ça, les gants, je pense que c'est un problème dans la boxe. Mais le plus gros problème, on se le cachera pas. Puis honnêtement, là, je veux pas y aller trop hard, mais j'espère qu'ils vont, Michel. Et puis les gens dans son équipe. Et puis Eye of the Tiger, et puis tous les promoteurs de boxe regardent cet événement-là puis se disent, la mentalité de la boxe doit changer. On peut pas continuer de prendre nos prospects, nos Marie-Pierre Roule, nos Kim Clavel, nos nomme-les, le n'importe quel prospect qu'on a, puis les faire se battre contre des Mexicains avec des fiches perdantes qui se sont fait knocker v'là quelques mois, qui sont juste là pour se faire colisser la volée de leur vie, puis il y a comme basically aucune chance que ça soit un combat compétitif. C'est dans ces situations-là que ça donne des choses comme ça. Les squash match, les combats pas compétitifs, les gens que t'amènes uniquement pour se faire péter à gueule, c'est avec des match-ups pas équilibrés de même qu'il y a quelqu'un qui mange 493 coups de poing dans la gueule en l'espace de 5-6 rondes, puis s'écroule, puis après, il arrive, Dieu sait ce qui arrive avec. Tu sais, c'est à cause de ça. C'est ça le problème, selon moi, puis c'est ça qu'il faut qu'il change. En MMA, pourquoi on n'en voit pas des morts? Oui, les gants sont plus petits. Oui, quand tu manges un tibia flush dans la tête, tu te fais knocker bien raide. Oui, il y a d'autres manières que de frapper à la tête pour gagner un combat. Tu peux amener quelqu'un au sol, le soumettre, nanana. Tu sais, on est tous conscients de ça. Mais, généralement, les gens affrontent des gens d'expérience similaire ou de calibre similaire. Parce que des gens qui n'ont pas la même expérience que d'autres, mais qui sont tellement forts. T'sais, on comprendra. Là, Cyril Gane battait des gars avec super expérimentés avec deux combats pro, un combat pro, même pas. Mais la différence de calibre, des fois, il y a des combats MMA qui sont genre, oh, je pense que lui, il a un avantage sur lui. Mais rarement, tu vois un combat que c'est genre, hey, check, v'là, mettons, je te donne n'importe quel exemple, v'là, Isaac Blais qui affronte un doute qui a une fiche de 0 victoire, 23 défaites, puis qui est littéralement juste là pour se faire péter à la gueule. Ça n'existe pas vraiment en MMA. On les voit pas, ces choses-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de mort non plus. Parce que, tu sais, Alex, il dit super bien dans les commentaires, tu sais. Le problème, c'est de vouloir gonfler la fiche de ses combattants puis se battre contre des personnes qui sont pas de calibre. C'est ça le problème. Puis à la boxe, tu regardes n'importe quel fighter qui est un champion, qui est un gars de haut calibre, il a une fiche boostée, c'est dans la mentalité de la boxe. On va monter sa fiche. Puis là, quand on pense qu'il est prêt après 15-20 combats pro, là, on va commencer à le mettre pour des championnats. Là, on va commencer à le mettre contre des boxeurs que c'est des combats qui sont, tu sais, égales ou, tu sais, du moins qui ont lieu d'être, tu sais, qui font du sens. Fait que Man, je sais pas, ça me dépasse juste un peu. Je trouve ça dégueulasse ce qui est arrivé. Puis je pense que ça, faut que ça mène à un changement de mentalité. Faut que ça soit fini. Faut aussi que la mentalité change par rapport aux défaites. Tu sais, à la boxe, des fois, tu as une défaite, puis ah, si lui, il a une défaite, il est fini, il ne sera jamais champion. Ça. En MMA, les gens perdent souvent, puis ils sont champions pareil. Ils continuent, tu sais, comme Charles. Il a perdu hier, là, Charles. Il s'est fait soumettre, esti. Mais... il a quand même eu une bonne performance dans le combat, là, du tout au tout. Ça n'a pas été si mauvais que ça, son affaire. Puis c'est sûr que c'est pas le fun. Il n'a pas son win bonus, nanana. Mais il va revenir à son prochain combat. Puis s'il en gagne 2-3 de suite, sa défaite-là va être rapidement oubliée. Puis Charles, on va parler de lui comme étant quelqu'un qui peut aller dans le top 15. Puis voilà. Tu sais, tu comprends? À boxe, c'est pas ça. On dirait que tu perds une fois, t'es comme semi-fini, sauf si t'as perdu genre contre Lomachenko. Fait que je pense que ça. Faut que ça change, faut mettre des gens avec des fiches semblables, avec de l'expérience semblable, avec du potentiel semblable. Puis oui, peut-être que ton gars va avoir une, deux, trois, quatre défaites avant de devenir un contender au championnat du monde. Mais en MMA aussi, puis ça marche. Puis il n'y a aucun doute que Max Holloway, même s'il avait trois, quatre défaites, c'était lui le meilleur au monde quand il était champion. Là. Il pétait la gueule à tout le monde, tu sais. Fait que je pense que ça, faut que ça change. Faut qu'on arrête d'envoyer du monde. Puis, tu sais, Vince, tu le dis, là, Vincent, une fille de 18 ans n'avait pas d'affaire avec une femme de 31 ans au sommet de son art. Exactement. Une petite fille de 18 ans qui a mangé un cove, là, 3 mois, qui se retrouve dans la cage, dans le ring, c'est-à-dire avec une fille qui est au sommet de son art, là, Marie-Pierre Roule, qui est au sommet de son art, qui est une prospect, qui est quelqu'un qu'on s'attend à quelque chose d'elle dans le monde de la boxe féminine au Québec. Puis, tu sais, ça n'a pas de crise d'allure, man, honnêtement. Puis, je veux pas. Tu sais, dire, oh, j'espère qu'Yvon Michel a honte. Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est juste, lui, il continue d'opérer dans un sport dont la mentalité est comme ça. Donc, tu sais, en termes de promoteur, il fait pas vraiment rien de mal parce que c'est comme ça partout. Là. Tu sais, nous autres, on en parle au Québec parce que c'est là qu'on est, mais c'est comme ça partout à travers le Canada. C'est comme ça aux États-Unis. C'est comme ça partout, même au Mexique. Là, tu sais, tu penses, Jeannette, elle se battait au Mexique, là, pas là. C'est sûrement battu contre une Mexicaine bonne, puis elle s'est faite péter à gueule. Puis... faut juste que ça change. Faut juste que ça change. Faut juste qu'on arrête de faire ça parce que ça peut pas être bon pour personne ce qui est arrivé avec Jeannette. Malheureusement, tu sais. C'est pas bon pour la régie, c'est pas bon pour le sport de combat au Québec, c'est pas bon pour la réputation, c'est pas bon pour les gens qui vont avoir des événements bookés après. T'sais, est-ce que la régie va décider que là, ils sont de plus en plus sévères par rapport à ça, puis ils vont décider de changer leurs mesures, puis ça va mettre un peu des bâtons dans les roues des prochains événements après, genre Samouraï notamment? T'sais, je le sais pas, je vais juste spéculer, mais man, faut que ça change. Là. Il peut pas avoir des jeunes de 18 ans qui viennent de se battre puis qui meurent, là. Ça a littéralement aucun calice de bon sens, man. Puis on peut pas, genre... je sais pas, man. On peut pas... Faut que ça change, man. Faut qu'on prenne ça comme étant un événement qui va changer les sports de combat au Québec. Puis on a souvent, au Québec, été dans les premiers. T'sais. On était la première place qui a légalisé les MMA. On est la première place où il y a eu des shows d'MMA légales, notamment grâce à Yves Lavigne puis les gens comme ça qui étaient sur la commission dans ce temps-là. Donc pourquoi qu'on serait pas ceux qui iraient encore de l'avant pour... instaurer des règles par rapport aux match-up qui sont plus sévères, genre. Pas nécessairement y aller, tu sais, je sais, il y a des promotions qui vont, oh, si t'as moins de 5 combats, faut que tu te battes avec quelqu'un qui a moins de 5 combats. C'est une manière de faire, je pense que c'est pas parfait parce que t'as des gens qui sont vraiment des phénomènes puis que dès leur premier combat sont bien meilleurs que des gens qui ont 4-5 combats. T'sais, on l'a vu dans tous les sports, dont en MMA, dont en boxe. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu d'ajustement là, pour que cette règle-là fasse du sens. Fait que j'irais pas vraiment avec des limites, là, de oh, 5 combats et moins, tu te bats contre quelqu'un de 5 combats et moins, mais juste arrêter d'amener des gens avec des fiches perdantes qui sont juste là pour se faire péter à gueule contre des gens qui sont des prospects. Je te dis pas de pas amener un Mexicain qui a une fiche perdante, tu sais, parce que beaucoup, il y a 20, tu sais, quelqu'un qui a 20 combats de boxe, admettons, là, puis qui a une fiche perdante, oui, il y a 2 victoires, 18 défaites. Si tu le mets contre quelqu'un qui fait ses débuts pro en boxe, admettons, je pense pas que c'est si pire que ça, à moins que la personne qui fait ses débuts pro soit genre un esti champion amateur qui est allé aux Olympiques ou tout de quoi de même, là, mais je pense un boxeur normal de 0-0, que tu le mettes contre quelqu'un qui a 20 combats, même s'il a presque tout perdu, c'est sûr que la personne a beaucoup plus d'expérience que lui. Mais dès qu'une personne commence à avoir 1, 2, 3, 4 victoires, puis ça s'en va comme étant un bon prospect, faut plus que cette personne-là se batte contre des pauvres gens avec des fiches perdantes qui sont là pour se faire tuer. Ça n'a pas d'allure, faut que ça change. Parce que là, il y a quelqu'un qui est mort pour vrai. Puis c'est vraiment pas bon pour le sport. Genre vraiment, vraiment pas bon pour le sport. Fait que ça, c'était, si on veut l'appeler de même, ma petite rant sur la boxe, sur la mort de Jeannette Zacharias Zapata. Que, comme j'ai dit, ça m'a vraiment rentré dedans là, quand j'ai vu ça. C'est excessivement triste, mourir à ce temps-là pour ça. Puis même, c'est dégueulasse. Mais honnêtement, c'est juste dégueulasse. Fait que, ceci étant dit, on va passer à des affaires plus intéressantes, des affaires plus belles. Parce que hier soir, on avait une carte de l'UFC. Ben, hier soir, pas hier soir, en fait, hier après-midi. Hey, c'est-tu le fun du MMA d'après-midi, guys? C'est-tu magnifique? Tu te lèves, là, tu te réveilles, tu as tes petites affaires, puis là, tu te bloques devant une carte de MMA vers midi, demi, une heure de l'après-midi, puis là, tu écoutes ça un petit peu, puis à 5-6 heures le soir, 6h30 même pas, c'est fini, esti. Fait que tu peux souper, tu peux faire quelque chose de son samedi soir. C'est-tu pas malade, ça, faire de quoi de ton samedi soir quand t'es un combattant, t'es un fan de combat? Honnêtement, c'est malade, genre. Moi, je trouve ça complètement épique. Ça me rend tellement heureux. Tu peux à la fois avoir des combats, puis avoir une vie sociale. Fou raide. Ceci étant dit, on avait deux Québécois sur la carte, Marc-André Barriot, Charles Jourdain, puis faut commencer avec le boy Barriot, parce qu'écoute, je me rappelle la dernière fois qu'il s'est battu, il a gagné, puis j'avais appelé le podcast « Le bon vieux Barriot », parce que dans ce combat-là, on avait vraiment revu le bon vieux Marc-André Barriot des jours de TKO. Le gars qui va de l'avant, qui a la tête dure, qui est un guerrier là, complètement... Genre, avec aucune peur, aucune crainte. Fait juste aller de l'avant, il est un troc. Puis sa présence physique est tellement imposante que même si ce qu'il fait, ça marche pas nécessairement toujours, juste le fait qu'il avance, puis qu'il mette de la pression, puis qu'il continue de laisser aller ses mains, même si des fois, il se fait plus toucher en retour que lui touche la cible. Puis il finit par fatiguer ses adversaires avec ça. Et puis c'est comme ça qu'il est allé chercher cette victoire-là face à Abou Azadar, dans ce qui était vraiment une bonne vieille performance du bon vieux Barriot qu'on connaît. Hier, c'est pas ça qu'on a vu pantoute, guys. Vraiment, là, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast le nouveau Barriot, parce que, man, c'est un nouveau combattant qu'on a vu hier, là. Oui, il y a encore les mêmes bases de Marc-André Barriot. C'est un gars qui veut être imposant, qui veut mettre la pression sur son adversaire constamment. Mais tu sais, on l'a vu avoir des débuts plus lents, prendre du temps avant de s'ajouter dans ses combats, puis au fur et à mesure devenir le bon vieux Barriot qu'on connaît, puis avoir du succès dans les later rounds. Ça n'a pas été le cas dans ce combat-là. Il est arrivé, pression tout de suite en commençant, un jab, man, c'est la première fois. Souvent, je me rappelle dans ses premiers combats UFC, ma critique, c'était « t'as une bonne main droite, Barriot, mais ta lance naked tout le temps ». T'essayes de gros overhand, puis ton adversaire le voit voir parce qu'il voit venir parce qu'il n'y a pas un jab avant ça, il n'y a pas rien avant ça qui fait penser à autre chose avant que tu lendes ta grosse main droite. Hier, il est sorti, pression, jab, lancer un jab avant littéralement toutes ses attaques. C'était magnifique, c'était parfait, c'était une performance parfaite de la part de Marc-André Barriot. Je suis extrêmement encouragé de ce que j'ai vu hier, honnêtement, dans son cas. Si Barriot peut arriver là pour avoir un jab, genre, puis avoir un semblant de striking technique en continuant de mettre la pression qu'il met, en continuant d'être le complet rock que quand il est dans le clinch, si va te pogner par la tête puis te souvenir les Barriot uppercut là, qui est littéralement rendu famous pour ça. Man, c'était parfait. C'était littéralement une performance parfaite de Marc-André Barriot. Le changement de camp, d'aller s'entraîner, puis oui, on le sait, il est toujours resté en contact là, avec Sifu Pat, puis avec Papa Jou, puis avec toute la gang du Patino d'Agatino. C'était eux qui étaient dans son coin encore, même si Henry Hoof il était là pour Derek Brunson, pour d'autres gars sur la carte. Fait que Henry Hoof était là-bas à Vegas avec lui, mais c'est Sifu Pat puis c'est Jou encore qui se sont occupés du corner, puis ils sont vraiment les main coachs. Mais le coaching à Sanford MMA, ça a vraiment paru. Le gars, puis on le sait, Henry Hoof, son striking, là, c'est un striking simple. C'est pas quelqu'un qui va te montrer des fantaisies, qui va te montrer des affaires. Lui, il veut un bon jab, une bonne main droite, des gros kicks lourds, pesants. Il garde ça bread and butter, puis vraiment, ça l'a grandement aidé la game de Marc-André Barriot de se retrouver là, à ce gym-là, de s'entraîner avec... Tu sais, tu check là, le monde qui sont là. T'as Brendan Allen, Yann Einisch, t'as Ong Lan Sang, le gars de One, là, qui a sinon fucké le gars de la Birmanie, mais qui hey, il est excellent. Ça fait des années, il était double champ à One, là, le pauvre dude, avant de pogner de Rider, là, qui est quand même un esti de combattant complètement fou, lui, avec. Mais bref, tout ça pour dire, énorme gym avec des pros, à tonnes du coaching de niveau élite, autant en striking qu'en lutte avec Greg Jones, qu'en jujitsu avec, je pense, c'est genre Wagner Rocha là, qui donne les, une partie du grappling là-bas. Fait que, tu sais, t'as vraiment vu Marc-André Barriot qui, on l'a vu là, depuis qu'il est retourné à Patnaud, depuis qu'il est retourné avec Sifu Pat, avec Drew, vraiment là, on a vu avec ce retour en arrière là, un peu à Gatineau, le bon vieux Barriot revenait. Et puis là, après, avec son move à Sanford MMA, il a gardé les meilleures qualités du bon vieux Barriot. Puis il a juste augmenté le niveau technique. Puis écoute, je pense qu'à partir de là, ça peut juste être mieux pour Barriot. Puis on parle d'un gars qui était 0-3 là, après ses premiers combats dans l'UFC. Puis on dira bien ce qu'on veut sur la victoire qui était overturned à un no contest à cause de des suppléments contaminés. C'est l'ostarine, tout le monde a fail pour ça dans l'UFC ou presque. Là, je vous nommerai la liste de fighters qui ont fail pour de l'ostarine, puis vous capoteriez. Là. Il y en a genre littéralement 50. Fait que on s'entend, c'est pas de la sauce, c'est pas rien vraiment. Lui, c'est juste plate que ça a été la commission athlétique plus que USADA qui l'ont pogné, parce que lui, il a été suspendu quand la majorité du monde qui se font prendre avec ça par USADA sont même pas suspendus. Mais ils ont enlevé cette victoire-là, mais ça reste une victoire, puis ça fait que Marc-André Barriot a perdu ses trois premiers combats, puis depuis, ben, il est 3-0. Là. Sa fiche est de 500 dans l'UFC. Il a réussi à passer de 0-3 à 3-0. C'est vraiment rare que ça arrive, puis honnêtement, man, oh, Monsieur Sparky n'est pas content, je pense que ça vient sonner à la porte. Mais honnêtement, Barriot, man, son niveau a tellement augmenté. C'est une séquence de victoire, il est en pleine confiance, on a revu à la fois, comme je dis, les éléments du bon vieux Barriot avec le niveau technique qui n'arrête pas d'augmenter. Je suis vraiment, vraiment excité pour le futur. Là. Vraiment excessivement excité pour le futur. Alors qu'on a Doris Asti dans les commentaires. Shout out à Doris Barriot. Ça, c'est un grand homme. Si vous le connaissiez, là, la famille Barriot, c'est du bon monde, man. Puis je suis vraiment content pour, non seulement pour Marc, mais pour tout le monde dans la famille. Vraiment, une petite belle gang. J'ai tellement eu du fun là, au TKO avec ces gens-là. Si vous saviez, avec Marc, avec son frère, avec Carl, avec tous ses amis, avec ses parents. Puis je suis content pour tout le monde, man. C'est du bon monde, du vrai bon monde d'ici qu'on doit root pour eux. Puis le succès, finalement, qui mérite, là, depuis tout ce temps-là, est arrivé dans l'UFC. Il y a eu des combats, style Andrew Sanchez, Christophe Jotko. Tu sais, des match-ups que tu n'as pas à ton entrée dans l'UFC. Lui, il les a eu. Il a grandi de ça. Puis écoute, depuis ce temps-là, il est excessivement difficile à arrêter, man. Fait que Marc-André Barriot, man. A plus, littéralement pour cette performance-là, A plus. Il a réussi. Puis en plus, Dalcha au premier round, il a réussi à lander un ou deux takedowns ici et là. Barriot, on le savait que ça n'allait pas le stresser. Il accepte aucunement la position. C'est ça qu'il a fait, c'est relevé de suite. Quand Dalcha s'est rendu compte qu'il n'allait pas vraiment le takedown, il a un peu abandonné ça. Puis il s'est dit, garde, je vais juste soigner les plus gros punches possibles parce que je vais essayer de le finir. Puis Barriot, il les a encaissés. Il n'y a eu aucun stress dans ce combat-là. Je pense qu'il était en plein contrôle tout le long du combat. C'était de loin. Genre, d'habitude, je suis toujours stressé pour les combats à Barriot, pour les combats à Charles. Je n'étais pas stressé pour Barriot, pas en tout. Puis dès que le combat a commencé, le peu de stress que j'avais a redroppé encore plus, man, honnêtement. Il était en plein contrôle de ce combat-là. Fait qu'un gros shout-out à lui. Puis ça nous mène à Charles. Ça nous mène à Charles qui, lui, pour sa part, malheureusement, a eu un setback dans ce combat-là. Face à Julian et Rosa, man, puis honnêtement, j'aimerais vraiment ça savoir votre opinion sur ce combat-là dans les commentaires. Là, si ça vous tente de me laisser ça, je vais les mettre sur le stream pour dire aux gens ce que vous en pensez. Pour ma part, man, écoute, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que si tu regardes le combat, Charles n'a pas mal fait. T'sais, il y a eu un premier round, c'était back and forth. Honnêtement, je ne sais pas trop de quel côté c'est allé, mais je pense que peut-être Rosé, c'est lui qui avait eu le plus de succès dans ce round-là. Deuxième round, clairement, Charles. Lui encore, on a vu de très belles affaires. La manière dont ses pull counter était vraiment beau. Là. La façon dont il allait vers l'arrière pour contrer le jab de son adversaire puis répliquer avec une grosse main gauche pendant que son adversaire était déséquilibré. Puis même une grosse main droite parce qu'il a beaucoup changé son stance dans ce combat-là. Puis il a vraiment, avec ses straight, autant de la gauche que de la droite, peu importe dans quel stance il était, il a vraiment très bien connecté là, tout au long du combat. De là à ce que il a facilement gagné le deuxième round, selon moi, puis rentrait dans le troisième round avec quand même beaucoup de momentum. Julian DeRosa, comme je l'ai dit hier dans le live stream, c'est juste un vétéran, là, un vrai de vrai vétéran qui en était à son 35e combat professionnel hier, et puis Son coach dans le coin, c'est les coachs qui étaient les coachs d'extrême couture qui venaient de perdre contre un Canadien avec Dalcha. Les deux, Dalcha et Julian Rosa, s'entraînent à la même place. Fait que ils venaient de perdre contre Barrio. Puis là, ils ont dit, mon boy, t'amènes ça à terre, man. Tu mixes in des takedowns. Puis Julian Rosa a juste écouté ses coachs, mixes in des takedowns. Puis c'est là qu'on a revu l'aspect de la game de Charles Jourdain qui marche toujours le moins bien. C'est là, quand Charles a des problèmes, quand Charles se retrouve dans des combats qui sont trop serrés pour ce que ça devrait être, c'est souvent parce qu'il est victime de takedown. Puis il se relève pas aussi bien que Marc-André Barrio, accepte un peu plus. Tu vois, le premier takedown, il y a eu un genre de struggle avant que Julian Rosa établisse sa position au sol dans la butterfly guard. Puis tu as vraiment vu que quand Charles a senti qu'il n'allait pas réussir à se relever de suite, il a vraiment accepté la position. Puis ça, il a pris une couple de secondes avant qu'il commence à faire une crevette pour se retrouver le dos contre la cage, puis là, réussir à se relever à partir de là. Malheureusement, s'est relevé une fois, s'est fait retakedown. Et puis la deuxième fois qu'il s'est relevé, Julian Rosa, je pense que c'était planifié, là, ce move-là. Il savait que. Je pense qu'il a regardé comment Charles se levait. Je pense qu'il a analysé ça, puis il a dit « Ok, il se lève de telle façon, je pense que mon thirst va passer. » Puis je l'avais dit dans mon preview, il faut faire excessivement attention, parce que Rosa, oui, est très grand et long, il y a beaucoup de reach, puis ça, ça lui donne du succès debout, mais c'est aussi un gars, quand il close la distance dans le clinch, va essayer les darts, les guillotines, les anacondas debout. Il les essaye debout, tout simplement, parce qu'il est grand comparé aux gens dans la division. Il a des très longs bras, fait qu'il est capable d'aller chercher ses grips quand même assez loin. Puis souvent, il passe tout simplement debout, puis là, il roule avec à terre ou il se lance avec à terre. Puis c'est exactement ça qu'il a fait avec Charles. Comme Charles essayait de se relever, il a passé le Dars. Puis écoute, à la seconde près que j'ai vu que le Dars était passé, il était tête en esti. Des gens avec des longs bras de même, c'est tellement plus facile pour eux de sortir un assez long bout de poignet de l'autre bord pour bien fermer ta grippe bicep pour que ton Dars soit super tête, super hermétique, qu'il n'y ait pas vraiment rien à faire avec ça. Puis de la façon qu'il a tombé, il est allé hook la jambe de Jourdain tout de suite. Charles n'a rien pu faire, puis c'est une défaite pour lui, malheureusement, dans ce combat-là. Puis la raison pourquoi je suis vraiment partagé, parce que c'est vraiment la moins bonne défaite de la carrière à Charles. Il ne faut pas se le cacher. C'est de loin, selon moi, sa moins bonne défaite en carrière. T'sais, TJ Laramie, il n'a pas encore eu le succès qu'on pense qu'il peut avoir dans l'UFC. C'est son premier combat, lui, avec un peu le même scénario que Charles. Je sais que je l'ai clown, là, TJ, parce qu'il a perdu contre Derek Minner, mais crime, depuis, Derek Minner est assez solide. Là, est un genre de gars qui a beaucoup de combats, une trentaine de combats plus et pro, puis qui a eu beaucoup de défaites, mais qui reste un bon combattant, expérimenté, qui va avoir du succès dans l'UFC. Il a battu Charles Rosa, le Derek Minner, chose que jamais... Genre, honnêtement, je pensais jamais que Derek Minner allait avoir une victoire dans l'UFC. Puis quand il a battu Laramie, je me suis dit, ouais, ça risque d'être sa seule victoire en carrière dans l'UFC. Ce qui n'a pas été le cas, mais... Tu sais, honnêtement, man, c'est la moins bonne défaite de la carrière à Charles. Parce que Laramie, comme j'ai dit... est un bon prospect encore, a beaucoup de potentiel. Le chum Desmond Green est gigantesque, un neutralisateur, c'est un 155 livres. Puis André Fili est littéralement le 16e meilleur featherweight au monde, et ça depuis vraiment un bon moment. Donc, c'est pas nécessairement, tu sais, aïe aïe, man. Comment je dis ça là, pour pas être méchant? Je veux pas être méchant parce que Charles, je trouve qu'il est super bien fait, puis je veux pas genre, comme le kick pendant qu'il est down ni rien. Là, c'est pas une défaite que t'es genre aïe, man, il est pourri, il fera jamais rien. Nanana. Au contraire, il y a tellement de bons moments dans ce combat-là. Puis c'est arrivé à beaucoup de combattants d'avoir des défaites un peu random là, dans leur way up. Par exemple, pas une défaite contre Julian Rosa. Il y a beaucoup de champions. Quand ils sont devenus champions, tu regardes leur fiche, tu te dis, ils ont une défaite vraiment random, eux autres. C'est comme Stipe qui avait perdu contre Stephen Struve, notamment, ou Max Holloway qui avait perdu contre Dennis Bermudez. Mais on dirait ce qu'on veut sur Stephen Struve, on dirait ce qu'on veut sur Dennis Bermudez. Dans ce temps-là, c'était des top 15 fighters. Puis pour Stipe, autant que pour Max Holloway, c'était comme, oh, regardez ce jeune prospect qu'on lui donne finalement sa chance au top 15. Puis là, oups, il a perdu ce combat-là. Fait qu'il a redescendu un peu, il a retravaillé son way up. Puis après, bang, à sa deuxième chance, il a gagné. Puis s'est établi comme un top 15 fighter. Puis à partir de là, ils ont monté. Puis ils sont devenus champions. Julian Erosa ne sera jamais meilleur que le bas de la division de l'UFC. Là. Malheureusement, c'est un bon vétéran qui est tricky, qui a plus d'un tour dans son sac, qui est capable de s'ajuster quand le combat est en cours parce qu'il en a tellement disputé des combats, il a tellement vu de situations différentes qu'il est capable de s'adapter on the fly. Puis c'est aussi quelqu'un qui, dans les derniers temps, a de plus en plus de succès. Là, dans sa nouvelle run dans l'UFC, je pense qu'il est rendu 3-1, là, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui, avec l'expérience, est capable d'avoir du succès dans l'UFC, mais c'est jamais quelqu'un qu'on va dire, hey, Julian Erosa, mettez-moi ça contre un top 15, ou même mettez-moi ça contre quelqu'un qui a beaucoup de potentiel dans cette division-là. Ça va rester un gars que tu te bats contre lui, puis si t'es capable de le battre, ben t'es comme, t'as ta place, t'es un bon, t'sais, mid-level UFC featherweight. Puis malheureusement, si t'es pas capable de le battre, ça veut dire que t'étais pas encore nécessairement rendu là. Tu sais, ça, je veux pas être dur sur Charles, comme j'ai dit. Il a tellement connu une bonne performance. Je trouve que c'est un combat qui était peut-être en voie de gagner. T'sais, après le momentum qu'il a acquéri dans le deuxième round, c'est un combat que je pense qu'il est en voie de gagner au troisième round. Si Erosa arrivait pas avec le switch-up dans sa stratégie pour aller chercher les takedowns, ce qui est ça qui a fait un peu derail là, le game plan de Charles. Fait que, je veux pas être trop dur sur lui, mais faut quand même être réaliste et dire que c'est pas comparé à ses autres défaites. À date, dans sa carrière, dans l'UFC, c'est sa moins bonne défaite. C'est ça. C'est le combattant le moins bon qui l'a battu. Puis je pense qu'il a déjà battu des combattants meilleurs que Julian Erosa, genre Alex Morgan, genre Duo Choi, genre peut-être même Damien Lapillus. Damien Lapillus, qui lui aussi est un gars qui a une trentaine de combats pro, puis tu sais, il a beaucoup d'expérience en MMA en général. Puis je pense vraiment que Damien Lapillus, Julian Erosa, ça serait un match-up assez compétitif. Donc, c'est pas comme si Charles n'avait pas déjà battu des gars de ce calibre-là. C'est pour ça que cette défaite-là, honnêtement, est un peu surprenante pour moi aujourd'hui. Puis ce que je voulais vraiment savoir, là, votre opinion, c'était par rapport au gym. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires hier, beaucoup de commentaires hier, autant sur mon post que sur d'autres posts, sur d'autres places, parler du fait que Charles doit changer de gym, Charles doit s'en aller aux États-Unis, ou s'en aller au Tristar, ou s'en aller, tu sais, à quelque part où il va avoir plus de partenaires d'entraînement de haut niveau. Puis moi, c'est vraiment ça, je pense qu'il est l'important de ce qui est dit dans cette portion de commentaires-là, parce que, tu sais, on va se le dire, Fabio Holanda a été le coach de Pat Côté, a été le coach de beaucoup de bons fighters, puis moi, je pense que Fabio, ça peut être un bon head coach. Je pense que Cyril Robert, c'est un très, très bon coach de striking, c'est quelqu'un qui a un MMA mind qui est underrated ici, là, tu sais, au Québec, je pense que c'est un des gars qui est le meilleur pour checker des combats, puis analyser, puis trouver des tendances, puis trouver un game plan qu'on a à suivre pour être en mesure de gagner ce combat-là. Fait que moi, je pense pas que c'est au niveau du coaching que Charles a un problème, loin de là. Mais c'est peut-être au niveau des training partners. Charles est probablement le meilleur dans son gym. T'sais, probablement le meilleur. Je sais que Louis se donne des grosses gars. Puis t'sais, jamais il va arrêter de s'entraîner avec Louis. Le Christ, c'est son frère. C'est bien normal. Mais sans dire, oh, Charles doit changer de gym, parce que moi, c'est pas moi qui va dire ça, là. C'est 100% pas moi qui va dire ça. C'est son choix à lui, c'est lui qui décide. Mais sans dire, Charles doit changer de gym, je pense que ça serait peut-être bon pour Charles d'aller faire des sparring au Tristar. Ou peut-être de se trouver une place aux États-Unis. Si c'est pas le Tristar, parce que je sais que c'est un peu comme dans sa gimmick de dire, oh, moi, je suis le petit gars du site qui va réussir sans aller au Tristar, parce qu'on dirait que tout le monde passe par là puis réussisse par après. Puis lui, c'est vraiment comme important pour lui de réussir sans nécessairement aller là. Du moins, ça l'était, là, dans les dernières entrevues que j'avais faites avec lui. Je pense qu'il pourrait peut-être se trouver un gym aux États. Un gym à quelque part qui est un gros, mais sans être aux États, pour aller en Ontario, pour aller au Niagara Top Team, pour aller dans. Tu sais, il y a plusieurs gyms où il y a beaucoup d'autres combattants professionnels, il y a beaucoup d'autres gars qui vont être plus gros que lui, qui vont être meilleurs que lui, qui vont être plus expérimentés que lui. Puis c'est possible, tu sais, de prendre une semaine, deux semaines sur ton camp pour t'en aller à quelque part, faire vraiment du training, du sparring avec des gens qui ont un plus haut niveau que toi, qui ont plus d'expérience que toi. Puis après, tu peux ramener ton camp ici au Québec avec ton monde. Mais je pense que ça serait important au niveau des training partners, genre de peut-être avoir des gens plus expérimentés pour s'entraîner avec lui parce que, tu sais, je dis pas que son team est mauvais, là, loin de là. Je pense que son team est bon. Le gars, il a eu du succès puis il est en train de gagner ce combat-là. Fait que je pense pas qu'on peut vraiment remettre en question son setup au complet à la suite d'une défaite dans un combat où il était probablement peut-être en train de gagner. Mais je comprends l'argument des gens qui disent que peut-être ça lui prendrait plus de training partner. Parce que oui, il y a Louis, il y a Jordan Balmire qui est un boxeur pro, mais est-ce que ça y prendrait un asti de gros lutteur, genre olympique ou genre juste un gros MMA wrestler américain qui va le malmener un peu au sol? Parce que clairement, on s'entend, je pense que c'est pas une cachette, c'est ça, là, la grosse lacune de la game à Charles Jourdain, c'est la lutte. Son grappling est bon, c'est rendu une black belt, son stand-up peut compétitionner avec n'importe qui, même des gars de 6 pieds 2, on l'a vu hier, mais quand ça se met à grapple, quand il y a l'idée du takedown puis du grappling dans la tête, c'est là que sa game change un peu, c'est là que ça devient plus difficile pour lui, c'est là qu'il y a des moments où il se passe un peu sur son dos. Puis ouais, Vincent qui dit exactement la même affaire, faire ses camps ailleurs, se challenger, avoir s'acheter docile puis revenir faire ses training camps aussi. Ouais, ce qu'Alex dit, il faut oublier que Charles s'est fait changer de combattant à la dernière minute et tout de suite son training camp, vu de l'autre combattant d'avoir un gars de 6 pieds 2, ça change en crise. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de sparring partner. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut considérer, le short notice, le match-up qui change complètement aussi. Tu sais, Lerone Murphy, oui, allait vouloir striker avec Charles, mais je pense qu'il allait vouloir mixer plus de grappling que Julian Erosa en général. Et puis, le match-up a vraiment beaucoup changé. Là, tu te retrouves d'un combattant à Murphy qui va vraiment être plus technique, un combattant qui va vraiment essayer de gagner le combat d'MMA de la façon la plus technique possible, à Julian Erosa, qui est un putain de mess. Là. On va se le dire, il est super le fun à voir, mais c'est un mess, le gars. Il va essayer de brawler avec toi debout, va essayer de... Oui, t'amener au sol, il apporte des ajustements dans sa game et tout, mais le gars, c'est comme Charles, de prime d'abord, un action fighter. C'est pas... Erosa, c'est pas le gars qui va arriver avec la grosse stratégie pour gagner coûte que coûte. Je pense qu'un peu comme Charles, préfère peut-être obtenir le fight of the night que la performance of the night. C'est sûr que tu ne crées jamais sur une performance of the night, mais Julian Erosa, c'est un action fighter, c'est un gamer, c'est un gars qui va faire des choses qui vont probablement le mettre dans le trouble, dans le but que ces choses à lui marchent. Lerone Murphy, ça allait pas être ça. Ça allait vraiment pas être ça. Ça allait être un gars qui allait rester super stratégique. Donc, Alex, il y a un point ici, là, dire que se faire changer d'adversaire, puis se faire changer de style match-up, se faire changer de... Pas mal tous les paramètres ont été changés dans cette équation-là. Puis, tu sais, c'est des choses qui arrivent, mais au niveau, justement, du training camp, je pense que c'est les partners plus que... Le coaching est super bon, Fabio est super bon, Cyril est super bon, tout le monde avec qui Charles travaille, je pense qu'ils sont bons, puis c'est possible de réussir avec ce coaching-là. C'est même possible de réussir avec les training partners qu'il y a en ce moment. Je veux pas qu'il s'en aille de son gym puis qu'il renie tout le monde qui est là, ni loin de là. Je pense juste que une fois de temps en temps, d'aller à quelque part où il y a plus de professionnels, où il y en a des plus gros que lui, des plus expérimentés que lui, des meilleurs que lui, des lutteurs, principalement des lutteurs. Je pense que ça ferait du bien. D'une fois de temps en temps, aller faire du sparring avec d'autres gens, ça permet d'augmenter sa game. Fait que je pense que ça, c'est un aspect à considérer pour Charles. Puis je pense qu'il va probablement le considérer parce qu'il y a tellement... J'ai tellement vu de commentaires à cet effet-là. Je pense que c'est le commentaire que j'ai le plus vu à cet effet-là. Surtout après la performance de Barrio, qui vient de faire ce changement-là, qui vient de s'en aller dans un super camp. On s'entend, il y a très peu de super camp en Amérique du Nord en général. T'as genre AKA, ATT, Greg Jackson, Winkle John, Sanford MMA. Je pense quasiment que le Tristar avec tous les Européens, tout le monde sont là. Je pense qu'il y en a dans cette catégorie-là aussi. On a vu Barrio changer pour un super camp, tout en gardant ses mêmes coachs. Là, avec, c'est encore Sifu Pat, c'est encore Drew, mais il est au Sanford MMA, c'est là qu'il s'entraîne. Il s'entraîne avec 295 gars de son poids et plus lourd. Puis ça a vraiment paru dans sa game. Puis après, on voit le combat de Charles. C'est là qu'on voit la différence entre s'entraîner avec un super camp et s'entraîner avec un setup qui est un peu plus maison, qui est un peu plus homemade, bien que comme je le répéterai pas assez, je pense que c'est plus les training partners que le coaching. Le coaching est excellent. Fabio, Cyril sont tous très bons. Mais peut-être d'avoir des partners différents, des fois, ça l'aiderait, surtout au niveau de son grappling. Ensuite, on va parler du restant de la carte. Je sais que vous avez entendu, là, vous avez hâte de m'entendre parler des autres affaires. Vite, vite, Jack Shore, je vais en parler. Le gars, il était absolument épique. Je l'aime tellement. C'est un de mes prospects préférés à 135 livres. Il n'y avait pas un adversaire à la hauteur. Lui, tout, il y a eu un changement de dernière minute, mais il est passé genre de Saïd Nurmagomedov à Ludwig Cholignan. Fait que lui, c'est pas genre... Mais Charles aussi, c'est un step down. C'est ça qui est plate un peu. C'est que Julian Erosa est probablement pas la moitié du combattant que Lerone Murphy est. Puis Charles, il a perdu contre lui. Fait que peut-être juste heureusement qu'il s'est pas battu contre Lerone Murphy tout de suite. Mais bref, tout ça pour dire Jack Shore, le changement d'adversaire, lui, ça l'a pas trop inquiété. Il a complètement pété à la gueule. Et puis, ça, c'est un des gars à surveiller là, dans cette division-là. Mais je le sais que vous avez hâte que je parle de Patty. De Patty, man. Parce que. C'est un astide personnage qui, on dirait, a tout fait pour pas full se faire d'amis là, avant son combat-là. C'est pété. Je sais pas si vous l'avez vécu. Je sais que c'est pas tout le monde qui est sur Twitter là, ici, mais dans le fond, il y a Big Marcel sur Twitter, Marcel Dorf, qui est un journaliste que je pense qu'il vient des Pays-Bas ou de quoi, mais beaucoup de match-up qui opposent les Européens. C'est souvent lui qui break la news. C'est souvent lui, genre, mettons, le Ariel Helwani européen. Et puis... Il avait reporté qu'il y avait des problèmes de visa, que je sais pas si c'était Paddy ou son adversaire, mais il y en avait un des deux qui avait des problèmes de visa, puis que le match, c'était un peu en péril là, pour cette carte-là. Puis là, il avait sorti cette nouvelle-là, puis Paddy de Paddy, il s'y avait pété un câble, puis on le sait qu'il est très bon pour mal parler aux gens, là, Paddy de Paddy, puis il avait vraiment dit beaucoup de merde à Big Marcel, comme quoi, ah, c'était des fake news, puis nanana, puis nanana, puis là, on l'entendait parler cette semaine, clairement, c'est vrai ce que Marcel avait dit, parce qu'il en a parlé cette semaine-là, qu'il était vraiment ébranlé, quand il y avait une possibilité que son combat n'aille pas lieu, puis nanana, nanana, fait que Big Marcel avait pas dit de merde, puis on dirait que la communauté MMA Twitter aime vraiment Big Marcel, c'est un gars qui fait bien sa job. Fait qu'ils ont un peu turn sur Paddy de Paddy qui est là en train de te l'envoyer chier pis tout. Puis en tout cas, c'est pas trop fait d'amis avant ce combat-là. Puis il est arrivé avec son asti de coupe champignon. Puis man, il est poche. Il est poche, man. Il est poche. Il affrontait vraiment pas un très bon adversaire, là, Luigi Vendramini. Puis il a passé à ça de se faire être sûr. Puis oui, il y a un chin. Est-ce qu'il faut lui donner il y a un chin? Mais comme j'ai dit dans mon preview, Paddy de Paddy, c'est pas un striker. Puis on dirait qu'il veut toujours se battre debout. Puis je le sais pas pourquoi, parce qu'il est bon au sol, c'est un bon grappler. Il a plusieurs victoires par soumission de plein de manières différentes. Quand il se met à grapple, c'est là qu'il se met à gagner ses combats de façon complètement dominante. Mais trop souvent, il arrive là, puis il passe à ça de se faire complètement allumer, parce que lui, aujourd'hui, il a décidé qu'il est un striker. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé hier. Il a décidé qu'il est un striker. S'est fait complètement allumer. Mais il est tough, il a un bon menton, puis il est resté dans le combat, puis un moment donné, il a trouvé un flurry pour finir son adversaire. Mais, crime, man, je le sais pas. C'est pas, tu checks ça, puis t'as Alex qui est pas d'accord avec moi, man, mais c'est parce que Luigi Vendramini est pas bon, man. C'est juste, c'est comme, c'est pas, c'est barely un UFC level fighter. Fait que si t'arrives là comme un top prospect dans le game, puis tu passes à ça de te faire finir par quelqu'un qui est même pas considéré nécessairement comme un UFC level fighter, même si tu finis par genre trouver de quoi puis le finir au premier round, puis oh c'est spectaculaire, puis là tu as ton entrevue d'après combat puis toutes les patentes, puis tu fais parler de toi beaucoup, parce qu'on s'entend que genre en dehors de notre petite bulle québécoise ici, Paddy de Paddy, c'est probablement la personne qui a fait le plus parler de lui sur cette carte-là. Si tu check Twitter, si tu check partout, tout le monde parle de Paddy de Paddy à matin. Mais je sais pas moi si je suis capable de checker cette performance-là puis me dire ouais, genre, ce gars-là, c'est le futur. Là. Tu sais, il arrive, c'est moi la nouvelle cash-cow, c'est moi le nouveau boy, là, c'est moi, mettez-moi dans un main event en Angleterre puis je vais sell out la place, tout. Puis. Tu sais, le gars a déjà plus de followers que Leon Edwards sur les médias sociaux. Fait que ça me surprendrait pas qu'il sell out la place puis qu'il soit très populaire puis qu'il amène beaucoup de gens, tu sais, dans le crowd. Mais, mettons que si tu me demandes si je le compare à Leon Edwards ou Darren Till, il a plus l'air de Darren Till hier. Et puis on sait où ça mène quand tu commences à affronter des combattants élites, que c'est quoi être Darren Till. Tu sais, t'as Carl Sitt, Carl Deschênes, dit « Je pense pas qu'il peut battre un gars dans le top 15. » Moi non plus, pas tout de suite. Puis je sais même pas si jamais. Tu sais, on s'entend, le gars, il arrive à 155 livres, là. C'est pas comme si c'était un middleweight. Puis là, oh, il passe pas, juste faire sonner, puis là, il y a un knockout, puis là, ah, wow, gros prospect, puis là, c'est un middleweight. Fait que tu peux littéralement le mettre contre le 15e au monde, puis il va affronter genre Brad Tavares ou de quoi de même, tu sais. C'est pas ça, pas tout. Le dos est à 155 livres. Là. C'est des plats. Tu verrais-tu Paddy de Barry contre Arman Tsaroukian demain, ou contre Nasrat, ou contre Raphaël Fiziev, ou contre Brad Riddle. D'ailleurs, Fiziev contre Riddle, man. Quel combat, man, ça n'a aucun bon sens. Je peux pas craindre. Je pensais pas qu'il allait s'affronter ces deux-là. Parce que à cause de la connexion Tiger Muay Thai, je sais que Brad Riddle, il était comme coach de striking là, un peu. Là, il est plus en Australie, mais il retourne là des fois, une fois de temps en temps. Je pense que c'est Fiziev qui est rendu coach de striking là, bien qu'avant, c'était Brad son coach. Fait que tu sais, ils se connaissent, là, il y a une connexion là. Je pensais pas qu'il allait s'affronter, mais man, ils vont s'affronter. Puis ce combat-là, ça va être vraiment, vraiment. Vraiment fou. Alex, il dit, il a pas passé poche de se faire finir avec le shot comme un boss, même pas là. Go, il s'est fait geler ben raide, man. Tu peux pas te faire geler de même quand t'es un top prospect, là. Genre, tu peux pas. Il dit, c'est clair, il peut pas manger ces shots-là contre des top 10. Exactement. Tu peux pas. Je dis pas que. Genre, il a failli perdre ce combat-là. Moi, je pense qu'il a failli perdre ce combat-là, en fait. Là. Je pense que s'il y avait un adversaire qui avait une meilleure finishing touch, il aurait pu le finir après l'avoir touché avec des shots de même. Mais clairement, il a montré qu'il avait un excellent menton. Là. Clairement, ça, c'est quelque chose qu'il a démontré. Mais, tu sais, comme Alex dit, je pense pas que tu peux l'amener contre des gens du top 10 ou même du top 15 ou même du top 20 à 155 livres, la meilleure division dans tout le sport, puis espérer qu'il mange ces shots-là sans se faire complètement détruire. Fait que oui, c'est une victoire, mais c'est comme une victoire qui me donne pas full d'espoir pour la suite des choses, mais regarde, Paddy de Barry, man, c'est peut-être le prochain Mike Perry des 155 livres, là, genre un gars bien connu qui se mord, réussit jamais à vraiment gagner, mais que le monde l'aime quand même. Puis regarde, si le gars réussit à se payer en faisant ça, tant mieux pour lui. Ensuite, on n'a pas le choix de parler de Khalil Roundtree, man. Parce que, tu sais, John Jones, toutes les fois qu'il landait son fameux kick oblique sur les jambes puis sur le genou, puis on se dit, hey, je me demande c'est quoi le pire qui peut arriver. C'est, ça a l'air cochon, là, ce coup-là. Ça peut revirer un genou à l'envers puis tout déchirer, ligament au complet. Puis je me demande si ça peut vraiment arriver, ça. Puis hier, on a vu que, ouais, Khalil Roundtree l'a fait. C'était dégueulasse, man. Honnêtement, c'était dégueulasse. Pas la technique, moi, je trouve la technique est super belle, puis les gens qui sont là, ça devrait être banni, puis tout. Pas tant, man. Tu peux coller des coups de coude dans la face du monde. Tu peux genre coller un coup de tibia flush sur la tempe ou dans le cou ici. Tu sais, les kicks qu'il aime dans le cou, là, puis que le gars il est tout knocké, puis hey, tout ça va avoir mal au cou le lendemain en se levant le dos. Mais bref, tout ça pour dire que si ces choses-là, c'est légal, je vois pas pourquoi le coup oblique sur le genou ne devrait pas être légal. T'sais, c'est pas un low blow, c'est pas rien. C'est pas la technique la plus clean dans le livre, mais. C'est pas la technique la plus dirty dans le livre non plus nécessairement. Puis, tu sais, Khalil Roundtree, il l'a passé, man. Il a blow le genou de son adversaire. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui est arrivé. Puis, je pense que la technique a lieu d'être. Définitivement lieu d'être. Sinon, Co-Main Event, Thomas Aspinall. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On s'entend. Sergei Spivak, il est bon. C'est un bon heavyweight grappler. Mais quand il perd, il a tendance à se faire spark au premier round. Puis, c'était un peu dur de se dire que Thomas Aspinall n'allait pas le spark au premier round. Il a fait exactement ça. Ce qui est plate pour lui, c'est que c'est dur d'être super impressionné quand c'est exactement ça qu'on s'attendait. Et puis, on va parler finalement du main event. Derek Brunson, Darren Till. Man, qu'est-ce qui se passe avec Darren Till? Il y a toujours un feeling là-dedans de moi. T'sais, c'est un gars qui a été monté très rapidement là, à 170. Puis toujours eu le feeling en dedans de moi que il avait peut-être pas encore démontré les affaires que je voulais voir de lui pour devenir un combattant élite. Puis oui, il a battu Cowboy Cerrone. Fait que là, il a eu son gros main event contre Wonderboy. Main event où, entre vous et moi, il y a eu une hometown decision dans ce combat-là. Pas qu'il ne méritait pas de le gagner, mais c'est juste que les deux se sont littéralement regardés pendant 5 rounds at range. Il n'y a personne qui n'a rien lancé. Puis là, les juges, notamment, ne savaient pas comment scorer ce style de combat-là, vu qu'il n'y a aucun dommage d'aucun des deux côtés qui a eu lieu. Fait qu'ils l'ont donné pour le favori local, Darren Till. Puis c'est comme ça qu'il a gagné cette décision-là dans un combat qui, honnêtement, ça aurait dû être un combat nul. Puis depuis, Il a juste gagné contre Kelvin Gastelum par décision partagée. Un dude qui est sur une séquence encore pire que lui, le Kelvin Gastelum. Je pense qu'il a gagné une fois assez. Un, deux, trois, quatre. Une fois ses six derniers combats, puis c'était contre Jan Heinisch, qui lui aussi est sur une séquence absolument horrible. C'est puissant comment. Aïe, c'est bien drôle, ça. Tu sais, Jan Heinisch, il est arrivé, on pensait qu'il était bon, lui, il s'est mis à perdre, là, depuis il perd, il perd, il perd. Le niveau un peu plus élite de ça, c'est Kelvin Gastelum, genre. On s'entend, Kelvin Gastelum est comme Jan Heinisch, mais qui perd juste contre des combattants élites. Puis Darren Till est le gars qui gagne juste contre Gastelum puis qui perd contre tout le monde, tu sais, il a perdu. C'est, si t'enlèves la victoire contre Gastelum, il a perdu ses quatre derniers combats, là, Darren Till. Puis pas vraiment de façon compétitive non plus contre Masvidal, c'est complètement fait allumer contre Tyron Woodley. Mais Tyron Woodley a eu l'air actif à côté de Darren Till dans ce combat-là. Juste pour vous montrer à quel point si le boy Darren fait rien. Et puis, ben là, Scott Whitaker, ça n'a pas été proche par tout. Puis hier, contre Derek Brunson, ben, ça a été le moins proche de tout. Honnêtement, là, ça a été le moins proche de tout. Il s'est fait complètement out-wrestle. Il n'y avait rien au sol pour Derek Brunson. Puis quand je l'avais vu favori avant le combat, j'étais vraiment, vraiment surpris. Je sais, comment vous pouvez mettre Darren Till favori contre Brunson? Il me semble que Brunson va absolument le wrestle fuck to death. Puis c'est ça qui est arrivé, mais Derek, il y a eu du killer instinct dans ce combat-là, man. Il y a eu du killer instinct en crise. Puis honnêtement, man, c'est une très belle performance. C'est pas la performance qui va sortir de là puis que tout le monde va dire donner un title shot à Derek Brunson. Il faut absolument. Bien que le gars le mérite. Là, s'il y en a bien un qui le mérite dans cette division-là, en ce moment, c'est lui. Il a 5 victoires consécutives. Il a battu Till Holland, Shabazian, Heinisch puis Elias Theodorou, qui sont tous des bons combattants. C'est sûr qu'il n'y a pas ce top 5 win-là nécessairement parce que c'est lui le top 5. Là, c'est lui puis les gens en haut de lui contre qui il a déjà pas mal tout perdu. Mais s'il y en a un autre qui, depuis qu'il est arrivé à Sanford MMA, il a complètement changé sa game. Puis c'est encore au niveau du striking, là. C'est encore au niveau du striking. Parce que Derek Brunson, tu sais, il en parlait hier, il s'est fait mettre KO 5 fois, je pense, sur ses 7 défaites. Puis t'es là, tu sais, Darren Till a beaucoup de power. Mais Derek Brunson, quand il se faisait knocker, c'est dans sa période où il était un complet madman qui courait après ses adversaires, qui utilisait aucune défensive. Puis c'était genre, je vais essayer de te knocker en quelques secondes, sinon tu vas me knocker en quelques secondes. Puis depuis, quand il est arrivé à Sanford MMA, c'est là qu'on l'a vraiment vu d'avoir une approche plus technique au striking. Parce que Brunson, c'était un tale of two fighters. C'était soit je suis le grinder des grinders, je ne fais que lutter, puis garder le combat dans la même position, puis être littéralement un des combattants les plus boring de l'UFC. Ou je suis un complet malade mental qui oublie le fait que je suis capable de lutter, puis soit je knock quelqu'un en une minute ou je me fais knocker en une minute. Puis il n'y avait comme pas de milieu entre ces deux-là. Puis depuis qu'il est arrivé à Sanford, il a gagné la confiance en son striking pour juste être capable d'échanger debout avec des gars en restant safe, puis en améliorant sa transition wrestling-grappling qui fait de lui un combattant. On a la meilleure version de Derek Brunson devant nous, là, de loin. Et puis, ben, il l'a montré hier contre Darren Till. Ça a été vraiment une excellente victoire pour lui. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette digne carte de l'UFC Vegas 36. On a quelques autres sujets à aborder cette semaine, bien sûr. On va avoir notre petit update Samouraï MMA. On connaît maintenant la date. Je voulais pas vraiment. J'ai étudié la semaine passée. Je sais que j'ai dit des affaires la semaine passée, mais je pense pas que j'avais dit la date. C'est le 19 novembre que ça va avoir lieu finalement. On sait tout ce qui est arrivé. Ça devait être le 16 octobre. Il y a eu l'instauration du passeport vaccinal. Samouraï a dû essayer de checker dans sa liste de fighters, dans son roster de fighters, qui était vacciné, qui ne l'était pas. Il s'est rendu compte qu'à peu près un combattant sur 5 maximum était vacciné. Donc, c'est dit fuck, si notre carte a tient plus pantoute, déjà qu'on sera pas capable d'amener les Européens, qu'on était supposé d'amener. Fait que là, il faut faire des match-ups canadiens contre canadiens, ou c'est à la limite américain contre canadien, mais vraiment en plus canadien contre canadien, puis trouver des gens vaccinés, parce que c'est pas juste au Québec qu'il y a un fighter sur 5 de vaccinés. Là, c'est comme pas mal généralisé que les fighters sont pas des gens qui se font vacciner en général. Ils sont pas mal tout compte ça assez solidement, je vous dirais même. Donc, finalement, ils ont trouvé une couple de gars qui allait être capable d'être vacciné. Il avait trouvé une place, c'était au casino du lac Lémy, à Gatineau, puis sacrément, man. Ça n'aura pas lieu là, finalement. Ça va, on ne sait pas encore où ça va avoir lieu, dans quelle ville ça va avoir lieu. Il n'y a rien de finalisé. Mais comme Samouraï finalisait le casino du lac Lémy, ben, le gouvernement a instauré le passeport vaccinal puis a décidé de fermer le casino parce que ça allait être trop compliqué d'effectuer la gestion là, des passeports puis tout, dans le lieu. Donc, ils ont juste fermé. Fait que ça a comme cancellé l'option de Gatineau assez vite pour Samouraï. Fait que, ils sont encore en train de travailler sur... un endroit, là, sur une location pour l'événement, une location, a location, si le gars il parle son français. Mais c'est le 19 novembre, c'est confirmé. Mick Dufort va être dans le main event. Je l'ai dit la semaine passée contre qui. Je peux vous le répéter, c'est Karl Prepelec. Puis ça va vraiment être un combat complètement ridicule, ça, les boys. Fait que ça nous mène à parler d'une autre promotion canadienne. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a passé sous le radar ici cette semaine, mais j'ai pas le choix d'en parler parce que Derek Clark, okay, qui est le gars derrière Fight League Atlantic, c'est vraiment un Chris de bon gars. C'est vraiment un bon Jack qui fait ça pour les bonnes raisons. Puis un peu comme Daniel, tu sais, Daniel, pour lui, c'est vraiment important de ramener le MMA au Québec parce qu'on est, tu sais, la deuxième plus grosse province au Canada. On est la province qui a créé le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mix. On est, c'est un gros berceau du MMA au Canada. Puis, en effet, le fait qu'il n'y a pas de promotion présentement au Canada, au Québec, c'est-à-dire, c'est un peu une honte. Puis, Fight League Atlantic, notre chum Derek fait la même chose, basically, OK? Puis, il fait la même chose pour les gens dans l'Est canadien. Et puis, il y avait son événement qui était prévu pour le mois de septembre. Il venait de booker toute sa carte. C'était réservé. C'était à Pictou, en Nova Scotia, en Nouvelle-Écosse. De là d'où il vient, c'est une promotion de la Nouvelle-Écosse. Il y avait beaucoup de combattants de l'Est canadien, des combats pro, des combats amateurs. Tout était set, OK? Il avait tout fait ce qu'il fallait avec la régie. Il avait payé les montants à la régie, à la salle. Il avait vendu des billets. Il avait tout. Tout était fait. Tout était en place. Puis, du jour au lendemain, la commission athlétique de la Nouvelle-Écosse a décidé qu'il annulait tous les événements de sport de combat jusqu'au 1er janvier 2022 à cause de la quatrième vague. On s'entend là-bas, là, dans l'Est canadien. D'après moi, ils ont eu 200 cas de COVID dans les quatre provinces. La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et le Prince-Édouard. Tu sais, il n'y en a pas vraiment eu de la COVID là-bas. Ils se sont fait une bulle de l'Est canadien. Ils ont vraiment bien géré ça là-bas. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de cas de COVID. Mais, somehow, après tout ce temps-là, que Fight League Atlantic, ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de faire des événements. Ce n'est pas la première fois que, pendant la pandémie, ils ont essayé d'en faire avec toutes les règles. Ils se sont fait complètement chier ça, dans mythe, littéralement, ils se sont fait chier dans mythe. Puis là, ils l'avaient, leur événement, le 25 septembre, c'était prêt. Puis la commission, après qu'ils avaient fait tous les paiements, après qu'ils avaient fait tout ce qui était demandé d'eux pour que ça soit fait dans les règles de l'art, dans les règles sanitaires présentes, puis blablabla, tout était parfait pour Fight League Atlantic. Puis la commission leur ont cancellé ça, man. Ils ont littéralement pris leur argent, puis ils ont shut down ça bien raide. Fait que là, évidemment, tous les partisans qui avaient acheté des billets pour Fight League Atlantic doivent se faire rembourser par, je pense que c'est Ticket Pro là-bas qui s'occupe de ça. Et puis là, présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont target la date du 16 octobre pour leur événement, puis ils sont en train d'essayer de déplacer leur événement de la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick. Puis sacrifice, 25 septembre, on est le 5, là. Il était à 20 jours de leur événement. Puis la commission athlétique leur ont complètement shut down ça. Aucun, tu sais, après que tout a été fait comme il faut, ils ont payé tout ce qu'il y avait à payer, puis tout était dans les règles de l'art, puis ils ont juste dit non, regarde, allez chier, on s'en calisse de vous, mangez-en de la merde, on n'en veut pas des sports de combat, on n'en a rien à crisser de vous autres, on annule votre shit, même si ça fait un an esti que vous travaillez pour que tout ça aille bien, puis man, c'est vraiment dégueulasse. C'est scandaleux, man. Puis Chris Derek, puis toute son équipe mérite pas ça. C'est tellement du bon monde. C'est tellement du monde. Tu sais, ils ont fait justement des tournois de grappling de Drew, là, les Submission Committee que je partageais sur la page. Ils en ont fait deux, trois pendant la pandémie. Ils en avaient fait un autre avant, je pense. Ils ont réussi à faire des événements sur le territoire en Nouvelle-Écosse, puis tout. Puis non, premier événement d'MMA avec partisans, puis tout le grand retour resti qui est entendu, qui a donc investi de l'argent dans cet événement-là. Ben non, il chie tout ça, puis il même pas un mois que c'est supposé d'avoir lieu, ben Chris, il faut qu'il change de place, il faut qu'il repousse la date, puis tu sais, ça a l'air de la, pour les partisans qui ne sont pas vraiment informés, de la même affaire que ça avait l'air d'être pour Samouraï, quand Samouraï vous dit oh, le 16 octobre, là, à cause du gouvernement, ils ont dû déplacer. Puis là, j'en ai entendu des gens dire ah, oh, bon, check ça. Encore un astuce de promotion au Québec qui dit une date et qui n'est pas capable de faire l'événement de la date qu'il dit. Puis, tu sais, en plus, avec New Era, qui on s'entend à New Era, ils essayent, mais ils ne sont pas capables de faire un événement, ils ne sont pas capables de présenter un événement, ils ne sont pas capables. À chaque fois, il y en avait un le 17 septembre qui devait avoir du MMA dessus. Puis, à cause de ce qui est arrivé avec Jeannette, puis c'est 100% compréhensible, là, ça devait être reporté, mais l'événement va être reporté là, à cause de ça. Donc, tu sais, New Era qui est là depuis avant la pandémie, incapable de mettre un événement sur pied. Avant ça, on a TKO qui, oh oui, c'était le date, puis là, une semaine de l'événement, il pogne l'argent de tout le monde, calisse son gant. Assis. Fait que c'est quand on voulait Samouraï être repoussé, les gens étaient là, ah, ben là, c'est quoi, c'est pas sérieux, ça, c'est un autre style de promotion qui nous disent de quoi, puis ils sont pas capables de, tu sais, puis c'est la même affaire, malheureusement, là, pour Fight League Atlantic dans l'Est, puis calisse, c'est pas de leur faute, man. Comme Samouraï, c'est pas de leur faute, le gouvernement est venu juste leur colisser des bâtons dans les roues, ben, c'est la même affaire qui vient d'arriver à Fight League Atlantic. Puis, je suis vraiment, vraiment intéressé de voir la situation en Ontario aussi, parce qu'on a appris cette semaine qu'elle allait avoir un passeport vaccinal en Ontario. Et puis ça, je me demande à quel point ça va venir à... Tu sais, je ne sais pas c'est quoi les paramètres exacts. Je ne sais pas si ça va être comme au Québec, puis les fighters, les coachs, etc. vont être obligés d'être vaccinés pour participer aux événements d'MMA en Ontario. Mais il y a beaucoup de combattants, là, comme mettons Zachary Powell qui pensait venir au Québec parce que lui, il avait en Ontario à Star, parce qu'il est à St. Catharines, parce qu'il s'entend au Niagara Top Team, vous le savez tous. Mais lui pensait venir à Samouraï là, après que son contrat soit échu avec BFL, parce qu'il est encore sous contrat avec BFL, mais vous comprendrez que Zach ne retournera pas se battre là-bas là, après ce qui est arrivé à son dernier combat. Il est assez amer, merci, puis il est en litige avec la commission, n'a pas su ce qu'il y avait avec l'appel encore, mais d'après moi, ça n'ira pas très bien pour lui, mais il est en litige avec la commission de la Colombie-Britannique, je pense pas qu'il veut retourner se battre là. Fait que quand son contrat allait expirer, il voulait venir au Québec. Là, il peut pas parce qu'il n'est pas vacciné puis il a le passeport vaccinal et tout. Mais là, ça arrive en Ontario. Puis je sais qu'il y a un événement de BTC le 12 qui va avoir lieu avant l'instauration du passeport vaccinal en Ontario. Mais après, qu'est-ce qui va avoir lieu? On ne le sait pas parce qu'il y a BTC 13 qui est déjà planifié pour l'Ontario. Il se pose avoir un tournoi bantamweight que le gagnant gagne 10 000 au final. Un tournoi à 8 gars, si je ne me trompe pas. Mais écoute, si le passeport vaccinal est instauré là-bas, ça pourrait venir compliquer ces événements-là aussi pour BTC. Fait qu'en tout cas, je sais pas, c'est pas des bonnes nouvelles des MMA canadiens là, par les temps qui courent. Vraiment pas des bonnes nouvelles. Les gouvernements, avec leurs nombreuses mesures, viennent vraiment mettre des bâtons dans les roues des combattants de MMA, puis surtout des promoteurs de MMA partout au Canada, du moins dans l'Est canadien, au Québec, puis en Ontario. Il y a pas ce problème-là, je pense pas non plus qu'il va avoir ce problème-là, autant dans l'Ouest, au BC, en Alberta, Saskatchewan, dans ces coins-là. Je ne penserais pas qu'il y ait de passeport vaccinal. Fait que, écoute, l'Ouest canadien vraiment avantagé par rapport à l'Est canadien pour ce qui en est de présenter des événements de MMA, puis des restrictions en mesure pour ces événements de MMA-là. Dans ce coin de pays, site-là, ils ne nous rendent vraiment pas un job facile, malheureusement. Ensuite, Corinne Laframboise, elle a gagné Corinne Laframboise, puis je suis vraiment triste parce que j'ai pas pu voir le combat. Si quelqu'un a vu ce combat-là puis est capable de me l'envoyer, là, que ce soit dans mes DM personnels, j'aimerais mieux ça que sur la page de MMA Talk. Quand vous écrivez sur la page de MMA Talk, j'ai quand même beaucoup de gens qui écrivent là-dessus, là, fait que j'ai enlevé une notification, fait que des fois, je vois juste vos messages 2-3 jours plus tard. C'est pour ça que c'est toujours mieux de m'écrire sur mon Facebook à moi, surtout si on s'est déjà parlé. Et puis, j'aimerais vraiment voir le combat de Corinne. Ce que je sais, c'est qu'elle a gagné first round TKO, dominante, et maintenant rendue avec 2 victoires consécutives, une fiche de 7 victoires, 4 défaites chez les pros. Et puis, man, ça commence à sentir l'UFC pour Corinne. Là, on s'entend, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle n'avait pas nécessairement une assez belle fiche sur papier là, pendant longtemps pour rentrer dans l'UFC. Tu sais, des fiches de 3 victoires, 2 défaites ou genre des choses comme ça, 5 victoires, 3 défaites. Tu sais, c'est dur à se retrouver à 5-4 un moment donné. Même. C'est dur de faire ton argument pour rentrer dans l'UFC avec ça. Mais là, 2 victoires consécutives, tu te retrouves à 7 victoires, 4 défaites. D'après moi, devrait être en ligne pour se battre pour la belt à UAE Warriors. Là, si elle n'a pas le call-up de l'UFC, elle devrait être en ligne pour se battre pour la belt. Si elle a réussi à se battre pour la belt puis la gagner, elle peut se retrouver 8-4 avec un championnat dans une très bonne promotion. Donc, honnêtement, je pense que ça commence. Elle commence à vraiment tout mettre sa game ensemble dans ses derniers combats. T'sais, Corinne, ça a toujours été une gamer, ça a toujours été une combattante super tough, super durable, qui est capable de prendre du dommage puis de rester dans son combat puis de trouver une manière de s'en sortir, une manière de gagner. Mais vraiment, dans ses derniers combats, on commence à la voir plus dominante. Là, une meilleure idée d'où elle s'en va avec sa game. Puis on a vraiment vu l'évolution dans son cas. Puis je pense que de plus en plus, commence à s'approcher d'un titre puis commence à s'approcher de l'UFC, tout simplement, à part de l'UFC, à part de à part, commence à s'approcher de l'UFC. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que je suis en train de lire vos commentaires, là, puis je me suis mêlé dans mes mots, si je suis pas bon pour ça. Bref, ensuite, on n'a pas eu la chance de s'en reparler. J'ai fait un live avec Greg, là, puis Carabine pendant le combat, mais on n'a pas eu la chance de se reparler du fallout de Jake Paul Tyron Woodley. Puis la seule affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est c'était pas fixe, guys. Puis je le sais que c'est majoritairement du monde, comme les opinions sur Jeannette Zakarias, puis sur ce qu'il faut faire avec la boxe, c'est bannir les coups à la tête ou nanana, mettre des casses. C'est un peu la même affaire pour Jake Paul, Tyron Woodley. On a beaucoup de takes de gens qui sont pas dans le sport, qui connaissent pas vraiment la boxe, qui connaissent pas vraiment comment ça se passe, ces choses-là. Puis qui nous arrivent avec des takes de « Ah non, mais regarde, Tyron Woodley, il l'a sonné, puis il a jamais follow-up, donc ça veut dire que c'était fixe, il était payé pour pas gagner, puis big. » Entre vous et moi, tous les partisans d'MMA qu'on a vu Tyron Woodley être champion, on a vu Tyron Woodley à son meilleur, on l'a vu à son pire, on l'a vu. T'sais, Tyron Woodley, ça fait des années qu'on le voit se battre, on le connaît par cœur. Est-ce que vous avez vraiment vu un Tyron Woodley différent de tous les Tyron Woodley qui existent au monde? C'est exactement le Tyron Woodley que je connais, moi, que j'ai vu. Il est arrivé là, il a absolument rien calissé. Puis un moment donné, il y a l'Undergrow Punch, il a passé à ça de tuer son adversaire, puis il n'a jamais follow-up. Parce que Chris, c'est Tyron Woodley. C'est Tyron Woodley, c'est lui. Puis si vous voulez me dire le fight était fixe, je suis prêt à vous dire oui, mais pas pour les raisons. Il n'y a pas d'affaire de toi, t'es payé pour ne pas gagner. Toi, t'es... C'est le même concept que le combat contre Ben Askren, vous comprenez? Jake Paul et son équipe sont des maîtres pour choisir les match-ups. Puis quand tu choisis bien ton match-up en boxe, t'as pas besoin de fixer le fight. Le fight est déjà basically fixe à cause du match-up que t'as choisi. Jake Paul pis son crew, ils savaient que Tyron Woodley, basically, s'il allait pas lancer. Ils savent, c'est quoi, on le sait tout, c'est qui Tyron Woodley. Il lance pas, il est inactif. Fait qu'ils savaient que si Jake faisait juste être sur son basic, puis il l'amenait des jabs, puis il l'amenait des n'importe quel style d'affaires qu'il pouvait lancer, il allait plus lancer que son adversaire, puis il allait gagner round, il avait juste à pas se faire knocker, puis il allait gagner. Fait que le combat était déjà pratiquement fixe avant qu'il commence. Pas parce qu'ils ont dit, ah, Tyron, on te paye pour que tu ne gagnes pas, juste parce que dans le style même de Tyron Woodley en tant que combattant, c'était pas un bon style match-up contre lui, d'affronter Jake Paul qui était immensément plus grand que lui, qui avait beaucoup de reach sur lui. Donc non seulement Tyron n'est pas le gars qui met le plus d'efforts pour lancer des coups de poing, mais quand il allait essayer de lancer des coups de poing, il allait souvent même pas être dans le bon reach parce que Jake Paul a réussi à plus ou moins gérer le reach dans ce combat-là. Pour ce qui est de la performance de Jake Paul, écoute, si tu regardes ça, tu peux pas te dire « wow ». Tu sais, je pense qu'il n'a pas bien paru vraiment dans ce combat-là. Le fait qu'il a passé proche de se faire geler par Woodley, puis c'est basically les cordes qui l'ont empêché de tomber, c'est pas vraiment un bon look là, dans un autre match-up que, d'après moi, si tout avait été comme le team de Jake Paul pensait que ça allait aller, il aurait probablement réussi à aller chercher un finish à quelque part dans ce combat-là, puis il aurait gagné de façon beaucoup plus décisive que ça. Fait que, tu sais, on dirait bien ce qu'on veut, mais Jake Paul contre Tyron Woodley, là, c'est un match-up qui fait du sens, chose qu'on ne voit pas beaucoup en boxe. Ce qu'on a réussi à voir, c'est que malgré le fait que Woodley est très inactif, puis il n'est pas un combattant qui a l'air plus motivé que ça de gagner en général depuis les dernières années, c'était quand même un combat compétitif entre les deux, chose qui arrive rarement en boxe. Je pense qu'il faut lui donner ses props pour ça, mais ben, bref, je ne veux pas entendre le discours de « Ah, c'était fixe », parce que c'était pas fixe. Il n'y a personne qui a été payé pour gagner. Il n'y a personne qui a été payé pour perdre. C'est juste que styles make fight, vous le savez très bien. Et puis, le style match-up dans ce combat-là avantageait à 300 000% Jake Paul. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Fait qu'on va parler de KK, guys. Je suis vraiment pas content qu'il soit parti. Puis d'un côté, je comprends parce que non, il vaut pas 6,1 millions. Peut-être que, par exemple, tu donnais du temps à la deuxième ligne constamment, que tu le benchais pas à tout bout de champ pour aucune raison valable ou que tu le descendais pas à la trois, quatrième ligne, jouer avec des astis jobbers. Peut-être que le gars, il aurait eu une meilleure production parce que Chris, il est excellent. Ça a été notre deuxième meilleur buteur en série. Le gars, il a beaucoup de talent. Là. Il a montré qui était quand même capable d'être un bon joueur au niveau de la Ligue nationale. On lui a peut-être pas donné les assez bonnes opportunités pour que ça arrive, malheureusement. Mais je suis quand même d'accord pour dire qu'il vaut pas 6,1 millions cette année. Puis les Hurricanes, le fait qu'on le signait, si on acceptait l'offre, on ne pouvait pas le signer en bas de 1,1 million, juste de 6,1 millions, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'il atteigne son autonomie complète. Donc les Hurricanes, en faisant ça, nous colissait complètement dans le trouble avec le cap salarial. Puis c'est pour ça que je comprends Marc Bergevin de ne pas avoir prolongé, de ne pas avoir matché l'offre des Hurricanes. Mais écoute, c'est une grosse perte pour le Canadien parce que non seulement on est allé chercher Christian Dvorak, gars qui nous a coûté plus cher que ce qu'on a obtenu pour Jesperi Kotkaniemi. Et ça, c'est ça que je comprends pas parce que Christian Dvorak, sa meilleure saison, ça a clairement été l'année dernière. Il a marqué 17 buts, 14 passes pour 31 points en 56 matchs. Mais si tu regardes toutes ses autres saisons dans la Ligue nationale, il a commencé en 2016-2017. 33 points, 37 points. 2018-2019, il était blessé, il a juste fait 17 points en 20 matchs. Mais 38 points l'année d'après. Donc, c'est un gars qui fait en bas de 40 points en 82 matchs en moyenne. Donc l'an passé, oui, en 31 points en 56 matchs, on s'entend que s'il gardait le même pace, il allait probablement dépasser le seuil des 40 points. Donc, ça se demandait, est-ce que l'année passée était l'année où il se découvrait? Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est l'année où Christian Dvorak devenait le joueur qui est supposé de devenir? Puis que là, à partir de ce moment-là, ça va être un joueur de 45-50 points par année. Si c'est le cas, ça va peut-être être une bonne acquisition, bien qu'un gars de 45-50 points par année, c'est un peu cher de donner un premier et deuxième choix pour lui, là. Mais honnêtement, je le sais pas. Genre, ça va être à prouver si c'est ça. Ou si ça reste, parce que pour vrai, si ça reste un joueur de moins que 40 points, c'est pas un bon deuxième centre selon moi. Puis ça, ce sera pas un bon move de faire ça. Puis t'as Alex qui dit qu'il va être mieux entouré à Montréal. Vraiment, man? Je le sais pas. Genre d'un, moi, je pense que ça serait tellement Canadien de Montréal, ça me surprendrait pas que ça arrive, que finalement, quand l'année commence, c'est Drouin qui est le deuxième centre, somehow, puis Vorjak se retrouve à l'aile du troisième trio avec Evans, puis Lekkonen, ou Evans, puis Armia, de quoi de même. Tu sais, c'est sûr, on se le cachera pas, on a une meilleure équipe que l'Arizona. Là. C'est pas bien, bien dur à battre, mais est-ce que genre, il va être tellement mieux entouré que sa production offensive va tellement s'améliorer parce qu'il est à Montréal. Je ne sais pas, parce que oui, on a une meilleure équipe que l'Arizona, mais Vorjak jouait des bonnes minutes en Arizona aussi. Là, on s'entend, c'est un joueur qui jouait sur l'avantage numérique, qui jouait sur le désavantage des fois, qui jouait ses deux premiers trios, puis c'est juste ça, sa production. Fait que ça, t'as vérifié. Puis d'après moi, et tout, l'affaire, c'est que c'est un joueur qui a 25 ans. S'il réussit à faire 45-50 points par année, c'est bien, mais c'est son pic dans la Ligue nationale. On s'entend, c'est là, à 25 ans, rentre dans les meilleures années de sa carrière, rentre dans le fait. C'est un joueur qui va être développé. C'est un joueur qui est prêt à faire le meilleur qu'il va être capable de faire dans la Ligue nationale. Kotkaniemi, il a 21 ans. Il arrive dans une équipe, en plus, où il y a littéralement que des gens de son pays, des AO, des Terevainen. Tout le monde est finlandais dans ce calice d'équipe-là. Puis ceux qui ne sont pas finlandais, ben, sont soit suédois ou russes. Ou tout le monde vient de l'Europe. Tout le monde vient de pas loin d'où c'est qu'il vient. D'après moi, c'est une bonne chose pour Jesperi. Le gars va être beaucoup plus capable de remplir son potentiel. Puis si Kotkaniemi remplit le potentiel qu'il a, c'est un joueur de 70, 65, 70 points par année, voire même plus selon moi. Donc, on vient de perdre un gros morceau. On vient encore de perdre littéralement notre troisième choix au total. Quelqu'un qui... On a eu des années de misère pour repêcher des gars comme lui. Puis on n'est pas capable de le mener à terme, genre, à cause de... J'ai vu beaucoup de gens parler de Trevor Timmins, genre, hey, crissez-moi Timmins dehors en même temps de Kotkaniemi. Pourquoi? Genre, littéralement, pourquoi? Les seuls bons draft picks qu'il a fait, On ne l'a pas donné la chance de les développer à Montréal. À part Carey Price, là. Puis oui, Pacioretty qui était là pendant un bout, mais on a fini par le donner lui avec. Mais tu sais, les Ryan McDonough, tous les gars qu'on a donnés, man. On n'est pas assez patient à Montréal avec ces joueurs-là. Puis on est prêt à les laisser aller puis à les échanger. Puis là, oui, dans ce cas-là, c'est une situation spéciale. 6,1 millions, comme je l'ai dit. Fait que notre situation de masse salariale puis tout. Il aurait fallu sacrifier d'autres gens pour garder Kotkaniemi. Puis on a vu que Bergevin, il était pas prêt à faire ça. Fait que malheureusement, on a perdu KK. Moi, je suis vraiment triste par rapport à ça. Heureusement, je ne m'étais pas acheté un chandail de lui. Parce que Chris, man. J'ai déjà un chandail de Galchenyuk. Ça aurait été triste à chaque fois que le gars s'achète un chandail. Le doute finit par se faire trader. Mais bref, je suis vraiment triste qu'on a perdu KK. Je ne suis pas convaincu que Christian Dvorak est un gars. Puis. Je pense que KK à 25 ans va être meilleur que Christian Dvorak l'est en ce moment. Basically, c'est ça que j'essaie de dire. Fait que, je pense que c'est triste. Je pense que si KK avait eu la chance de jouer sur un deuxième trio, la chance de jouer toujours en avantage numérique constamment, même si c'est des moins bons matchs, de jouer avec justement les Toffoli, les Mike Hoffman, Brendan Gallagher, tu sais, des bons joueurs qui vont l'aider à produire offensivement, je pense qu'il y aurait eu plus de succès des meilleurs stats qu'il a eu dans sa carrière à Montréal. Puis je pense qu'il aurait pu finir, peut-être pas cette année, mais l'année d'après, par valoir le 6,1 million de dollars qu'on l'aurait payé. Mais c'est pas ça qui va arriver, malheureusement. Puis ça me donne une raison de plus encore pour pas prendre pour le Canadien. Fait que let's go. Et puis, Chris, je peux pas croire que j'étais solo aujourd'hui puis j'ai parlé sans arrêt pendant une heure et quart et plus, mais... J'ai un dernier sujet que je veux qu'on aborde. C'est Donda contre Certified Lover Boy. Ça a été le gros sujet de discussion cette semaine. Puis pour ceux qui les ont écoutés, je veux le savoir dans les commentaires que vous avez préféré. Le CD de Kanye, Donda, ou le CD de Drake, Certified Lover Boy. On sait que les deux sont en beef. C'était supposé de sortir en même temps. Je pense que le label de Kanye West a genre dit « Hey mon big, tu feras pas ça. » Parce qu'on s'entend... Autant on peut comparer la musique sur ces albums-là, autant on peut comparer plein d'affaires par rapport à ces albums-là. La chose qui n'allait pas arriver, c'est Kanye vendre plus que Drake. Ça n'allait pas arriver, guys. Ça n'allait pas arriver. Drake, c'est la personne qui vend le plus, qui est absolument intouchable. Puis, tu sais, on a vu, je pense, Donda a vendu environ 325-350 000 copies à sa première semaine. Ce qui est de nos jours absolument gigantesque. Là. Il y a vraiment peu. Tu sais, les artistes, autant dans les hip-hop que dans les autres sphères de la société, les autres sphères de la musique, pas de la société, Carlis, de la musique. Si t'es pas basically Ariana Grande ou genre Billie Eilish ou genre une des superstars comme ça, mec, t'es un artiste bien établi qui a souvent des hits sur les charts. Tu sais, qui est connu de tous. Mettons un Shawn Mendes, de quoi de même. Même Bieber, des fois, il n'y a pas des super bons first week sales sur ses CD. Vendent environ entre 150 et 200 000 copies. Puis ça, on parle d'artistes établis dans les meilleurs. En hip-hop, on parle d'un DaBaby, d'un Lil Baby, Lil Uzi Vert. Ces gens-là là, qui sont pas dans les top 3 rappers, qui sont pas basically Drake, Kendrick, J. Cole ou Travis Scott. C'est des gens qui ne sont pas ça, mais qui sont des rappers établis, connus de tous. Vendent entre 150 et 200 000 par semaine à leur première semaine de leur album. Kanye, 325 à 350 000. Donc, c'est littéralement le double de ce que le rapper bien établi fait. Puis Drake, tu sais, son album vient de sortir. Les premières projections, ça regarde 550 à 600 000. Puis, basically, la seule personne dans la musique qui est capable de vendre plus que ça, c'est Taylor Swift. Fait que, au niveau des ventes, ça n'allait jamais être une compétition, le Donda contre CLB. Mais au niveau de la musique, je pense que c'est une bonne compétition parce que, honnêtement, si je regarde ça dans l'ensemble, je pense qu'il faut peut-être que je donne les devants à Drake pour un projet complet. D'un, quand Donda sorti, il y avait 27 tunes dessus. J'ai trouvé ça brutal. Un album de 27 chansons, ça n'a pas de crise de bon sens. Surtout quand tu as beaucoup de chansons de 5 minutes et plus. T'sais, on sentait les nouveaux rappers, ça te sort des CD de quasiment 30 tunes, mais le tune, c'est 1 minute et demie de Never Too Much. Never Too Much, c'est comme Playboi Carti. Fait que, Au final, ça s'équivaut, il y a 30 tonnes, mais ça dure une heure. Là, Kanye nous a sorti un CD qui durait 1h40, OK? Puis c'est pratiquement impossible d'écouter d'un bout à l'autre, là, honnêtement. En tant que, tu sais, moi, Kanye, je vais vous le dire, c'est probablement un de mes 4 à 5 rappeurs préférés de tous les temps. Là. Puis c'est pas quelqu'un que, quand j'y pense rapidement de même, je vais dire, je vais le mettre dans mon top 3, mais quand je commence à faire des listes de lecture de mes chansons préférées, c'est toujours Kanye qui a le plus de tunes. Là. Ces vieilles chansons, le gars a littéralement pas eu un mauvais album de College Dropout à My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Là, tous ces albums-là, c'est, selon moi, c'est des classiques, là, que ce soit ça, Late Registration, Graduation, 808 and Heartbreaker, des albums que j'ai le plus abusé dans toute ma vie, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, même affaire. Après ça, Yeezus, c'était pas très bon, mais The Life of Pablo, c'était excellent. Puis depuis The Life of Pablo, là, on voit vraiment que ça drop, là, un peu comme la santé mentale de Kanye en général. Mais autant, je pense, si tu regardes le projet au complet, celui de Drake, il est plus écoutable d'une shot. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de chansons avec du gros R&B assez lent. Que je trippe pas, mais je pense que la meilleure manière que je pourrais vous dire ça, basically, c'est qu'il y a plus de tunes que j'aime beaucoup sur le CD de Kanye West, mais il y a beaucoup plus de tunes que je déteste sur le CD de Kanye West. Tu sais, le CD de Drake, il n'y en a aucune que je déteste. Il y en a que je trouve un peu plus slow que ça. Je ne mettrais pas ça dans ma playlist, mais ce n'est pas une mauvaise chanson. Puis il y en a qui sont bonnes puis que j'ai envie de mettre dans ma playlist, mais on dirait beaucoup moins que sur le CD de Kanye, où j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon 7-8 tunes faciles là, que je vais écouter pendant très longtemps sur cet album-là. Mais que sur les 27, il y en a 12-13 que littéralement, je ne veux plus jamais réentendre de ma vie sous aucun prétexte. Fait un album qui représente bien Kanye, là, dans le fait, quand tu penses ça, excessivement bipolaire. Soit que les chansons sont excellentes ou sont complètement à chier. Il n'y a aucun hostie de milieu avec Kanye. Puis je pense qu'il faut apprécier ça. Pour ce qui est de Drake Certified Lover Boy, honnêtement, après le premier écoute, il y a deux chansons là, qui sortaient vraiment du lot, selon moi. Il y a celle avec Travis Scott, Fair Trade, c'est comment qu'elle s'appelle. Puis il y a Knife Talk avec 21 Savage. Mais écoute, cette chanson-là, elle sonne littéralement comme une chanson qui aurait dû être sur Savage Mode 2. Là. D'après moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre Knife Talk sur Savage Mode 2, puis prendre la chanson avec Drake sur Savage Mode 2, puis mettre ça sur Certified Lover Boy. J'ai peut-être l'impression que ça a été enregistré dans le même temps en plus, je sais pas, là, je spécule là-dessus, mais bref. Tout ça pour dire, la chanson avec 21 Savage sur CD Drake, c'est de loin la meilleure. Et puis, je pense que c'est rien que ça que j'avais à dire là-dessus, honnêtement. Très bon. Gab me demande, le dernier album de Polo G, Big, je l'ai vraiment pas aimé, man. Honnêtement, là, Hall of Fame, je l'ai vraiment pas aimé. Moi, j'adore Polo G, c'est un de mes nouveaux rappers, voire même mon nouveau rappeur préféré. On s'entend, la nouvelle génération, là, Polo G, Pop Smoke, c'est pas mal mes deux GOAT en ce moment. Puis j'ai tellement aimé l'album The GOAT de Polo G, je l'ai adoré, encore des chansons. Là, j'écoute 21 encore, j'écoute I Know encore, j'écoute Martin and Gina encore. Mais je sais pas sur... Sur Hall of Fame, on dirait qu'il a essayé. Il y a des chansons qui sonnent juste pas bonnes à mes oreilles. Il y en a que j'aime beaucoup. La dernière en particulier, Bloody Canvas, ma préférée de loin. J'aime beaucoup celle avec The Baby. Tu sais, il y en a, j'ai une couple de tunes là-dessus sur ce CD-là dans ma playlist, mais je l'ai pas aimé le CD en général. Je trouve qu'il y a beaucoup de tunes qui sonnaient un peu off à mes oreilles. Puis c'était de loin. Sur les trois albums que Polo G a sortis en ce moment, c'était de loin, là, je pense, de loin, sont moins bons. Die a Legend était meilleur que ça. The Goat, c'est pratiquement mon album préféré l'année passée, ou presque. Là. Fait que je pense que ça va être très dur. C'était ça ou The Weeknd, là, je pense, même pour mon album de l'année dernière. Donc, non, j'avais été un peu déçu par le dernier album de Polo G, mais... Tu sais, comme dans le cas de l'album de Kanye, il y a beaucoup de chansons sur cet album-là que j'écoute encore, tu sais, aujourd'hui, qui sont dans ma playlist, mais c'est juste que les autres, je sais pas, il y en avait. Il y a vraiment des chansons là-dessus, tu sais, la tune avec Nicki Minaj, là, qui est un peu plus dancehall, jamaïcaine, où il y en a une il y a un beat un peu plus rock, là, je pense que c'est Broken Guitars ou de quoi. Et Big, c'était horrible, là, ces chansons-là. C'est que vraiment, Polo G, je pense qu'il y a vraiment un style établi, puis j'ai l'impression que sur certaines chansons, sur cet album-là, il a essayé de sortir un peu de son style, puis ça n'a pas marché. Genre, malheureusement, il y a des rappers qui sont versatiles, qui peuvent faire plein d'affaires. Polo G, autant je l'adore, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il reste dans son lane, puis qu'il essaye pas trop de sortir de ça, parce que la qualité descend vraiment quand il essaye de switch de style un peu de rapping, je vous dirais. Fait que, non, c'est ça que j'avais à dire sur Polo G. Puis c'est ça, man. Ça fait 1h25 quasiment que je suis là tout seul à vous déblatérer. Un gros merci d'avoir été là, guys. Je suis bien content que vous soyez là, même si je suis là tout seul. Je me dis, Chris, si j'arrive là, j'ai pas de partner, je déblatère tout seul. Le monde va aussi écouter pareil. Ou tu sais, il aime ça, les interactions, plus que voir mon petite tête de clown, genre déblatérer sans arrêt pendant 1 heure. Mais vous avez quand même été là en grand nombre sur le live, fait que je suis bien content. Un gros merci à vous tous. On se parle la semaine prochaine avec Greg, probablement, en espérant qu'il ait dormi la nuit puis qu'il soit donc disponible pour le podcast. Sinon, un gros merci à tout le monde puis on se parle la semaine prochaine. Ciao. Pow. What does it mean to us?